France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Savez-vous que Marilyn Monroe souffrait d'endométriose? On dit que c'est pour ça qu'elle prenait autant de tranquillisants, d'antidouleurs et qu'elle a fini d'ailleurs par en devenir accro. Peut-être même que c'est ce qui l'a rendue stérile et cette stérilité, c'est l'une des causes de sa dépression chronique. Elle a été opérée 7 fois, Marilyn. Encore moins à l'époque qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui encore, ces douleurs féminines, on n'en parle pas. De toute façon, le sang, la douleur qui plie en deux, on ne veut pas savoir. Et puis c'est un truc de femme. Les règles sont tabous, alors la souffrance qui va avec. Mais peut-être qu'on est en train de mettre cette phrase au passé. Une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose vient d'être lancée avec un premier comité de pilotage normalement pour le mois prochain. Pour l'inscription à la liste des affections longue durée, c'est plus compliqué, on y viendra. Mais si on regarde la bouteille à moitié pleine, au moins nous entrons enfin dans une ère où l'endométriose n'est plus comme une maladie fantôme. Au moins, peut-être qu'on va définitivement arrêter d'entendre, mais c'est normal d'avoir mal pendant ses règles. Au moins, cette souffrance qui recroqueville certaines au fond de leur lit n'est plus banalisée. L'endométriose abîme les carrières, elle stoppe les études, elle culpabilise. Essayons de voir comment on progresse, comment on va progresser. Pourquoi c'est si compliqué d'expliquer pourquoi survient cette maladie, d'où elle vient, qu'est-ce qui soulage, comment soulager mieux. C'est le téléphone sonne ce soir et bienvenue à tous.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et qui est la première? C'est vous, Mélissa. Bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Mélissa.
Mon témoignage. J'ai 41 ans, j'ai 3 enfants. J'avais envie de vous parler en fait d'un syndrome sur lequel on n'en parlait pas trop. On parle beaucoup de douleurs et d'ailleurs je suis admirable toutes les femmes qui subissent et ces douleurs tous les mois. Mm-hmm. Moi en fait je souffre de règles hémorragiques. Mm-hmm. Ils sont du coup très handicapantes. Hein. 2 jours, 2 nuits par mois, je suis clouée aux toilettes. Voilà, je suis réveillée 5 fois dans la nuit et mon temps de transport pour aller au travail est insupportable. Voilà, donc c'est vrai que je suis ravie que ce soir vous en parliez parce que j'attends que cette maladie soit reconnue. Hein. C'est un réel handicap pour le travail. Et si on n'était pas obligé de se justifier de ses absences.
Alors on n'en est pas là.
Tous les mois, encore. Voilà. Encore.
On n'en est pas là.
Mais bon, c'est peut-être un début. Mais voilà, c'est compliqué hein, d'appeler son employeur matin pour lui annoncer que voilà, ça va être compliqué de se rendre.
Et on va en parler parce qu'il y a différents niveaux aussi. Mélissa, je vous remercie beaucoup pour ce début et pour cette entrée en matière. C'est vrai qu'on y viendra parce que c'est l'un des chevaux de bataille d'une de nos invitées, Valérie Desplanches. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre de l'association de patientes qui s'appelle Endomind et présidente de la Fondation pour la recherche sur l'endométriose. Éric Petit est avec nous également. Bonsoir, Monsieur Petit. Bonsoir. Vous êtes radiologue, fondateur et responsable du centre de l'endométriose du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph. Vous avez écrit tout sur l'endométriose aux éditions Odile Jacob. C'était il y a 2 ans, en 2019. Commençons par là, en fait. On parle souvent de la douleur. Les règles hémorragiques aussi font partie des symptômes qui, pardon de le dire comme ça, qui vont avec, en quelque
sorte. Tout à fait.
Hein,
c'est partie des symptômes qui accompagnent le plus souvent les sondes hémorragiques. Et ça commence dès l'adolescence, hein, en fait. Et ça accompagne la douleur de règles, effectivement. Et donc ça peut même entraîner à un certain degré une anémie. Donc ça fatigue, ça concourt au syndrome de fatigue chronique en particulier. C'est un des symptômes cardinaux, effectivement.
Est-ce que au moins on peut se dire, on verra avec vous Valérie Desplanches ce qui manque, mais est-ce qu'on peut se dire quand même que le fait qu'on l'ait mis sur le devant de la scène, que ce soit là, qu'il y ait un plan stratégique, est-ce qu'on dit au moins que ce qui sera épargné à toutes ces femmes qui nous écoutent et celles qui vont nous appeler, c'est le temps? C'est le temps infini du diagnostic. Moi, en préparant cette émission, j'ai découvert, Valérie Desplanches, que c'était 7 ans en moyenne. Ça paraît complètement incroyable.
C'est 7 ans et ça ne s'améliore pas, puisqu'une dernière étude du projet Compare tend à montrer 10 ans de retard de diagnostic.
Probablement plus encore que 7 ans.
Donc on ne va pas dans le bon sens, en fait. Donc il était effectivement temps qu'on fasse quelque chose pour informer et pour que tout le monde devienne conscient, effectivement, et ne passe pas à côté du diagnostic.
Et moi, ça finit pas de m'étonner, Éric Petit, je suis pas naïve à ce point-là, mais certes, on n'en parle pas, il y a ce côté tabou, mais enfin, tout le monde sait ce que c'est que l'endométriose. Donc pourquoi, aujourd'hui encore, ça mettait encore aussi longtemps? Pourquoi il y a des femmes femmes, on entendra certaines qui disent qu'elles ont fait tous les gynécos de leur région avant de tomber sur quelqu'un.
Bah, d'abord, la formation de nos collègues, c'est long. Hein. C'est, on arrive à sensibiliser la population, et notamment les femmes, aux problèmes... Par exemple, avec ce genre d'émission, mais la formation des collègues, ça c'est beaucoup plus compliqué, plus long. Et puis il y a un ancrage inconscient de la douleur normale de la femme. Donc ça c'est très très compliqué de remonter ça, de contrer cette perception évidente pour la plupart des praticiens, y compris les gynécologues, qui ont toujours baigné dans l'idée que, et ça fait 4000 ans que ça dure quand même, que les règles douloureuses c'est normal. Donc il y a un mythe là à déconstruire et c'est très compliqué.
Très long. Vous avez mangé ma remarque, vous avez dit, y compris chez les gynécos, parce que c'est exactement ce que j'allais vous demander, vous avez répondu avant.
Ben oui, tout à fait, voilà, c'est comme ça. Donc c'est paradoxal, mais c'est une maladie qui n'est que des paradoxes en fait, c'est incroyable.
On appelle ça l'errance médicale, enfin c'est les patientes en tout cas appellent ça l'errance médicale. Pascal est avec nous, bonsoir Pascal.
Bonsoir.
On vous écoute Pascal.
Alors moi j'appelle pour ma fille, parce que c'est ma fille Mathilde. Alors, qui a de l'endométriose et qui a été depuis qu'elle a 16 ans. Alors, on a eu de la chance parce que j'ai été assez réactive suite à la maltraitance des urgences dans lesquelles nous allions tous les mois, et en pédiatrie puisqu'elle avait 16 ans, donc elle était en pédiatrie quand ça allait pas du tout. Elle avait des crises tous les mois, elle vomissait beaucoup, elle a perdu 14 kilos en 9 mois. Les internes justement qui sont des nouveaux médecins nous culpabilisaient totalement hein, en nous disant que c'était nous qui avons un problème, que ma relation à ma fille a été un problème. Et puis bout d'un moment que c'était tous les mois, j'ai contacté une clinique, l'ARS de notre région pour avoir les référents endométriose. Nous sommes du coup suivis à Marseille dans une clinique avec deux gynécos qui ont été extraordinaires parce qu'ils ont dit à Mathilde tout de suite, Mathilde, mais nous on te croit.
Et surtout, on met un nom, j'imagine. Mettre un nom, c'est quand même très important.
Mettre un nom, mais ça n'a pas été que ça. Parce qu'à la suite de ça, il y a eu tout de suite de l'imagerie, hein, des IRM. Rien n'est ressorti à l'IRM. Et donc, Mathilde me disait, maman, je suis folle. Mais ils ont raison que je suis folle. Le gynéco, le docteur Lazare et le docteur Estrade, extraordinaire à la clinique Bouchard à Marseille, ont dit à Mathilde, c'est pas grave, on va t'opérer. Elle était vierge, hein, ma fille. Ils l'ont mise sous des pilules qui n'avaient pas de, qui ne faisaient rien. Donc le docteur Lazare a dit, on t'opère, on te met un stérilet. Et même s'il n'y a rien en imagerie. Et en fait, elle avait de l'endométriose dans tout le dos, ma fille. Elle a été opérée, ça n'a servi à rien, je ne vais pas dire ça. Parce que l'endométriose, il faut absolument l'associer à la douleur chronique. On ne peut pas parler d'endométriose sans de douleur chronique. Mathilde, maintenant, elle a un protocole parce que tous les mois, elle va dans les urgences de toute la France et je la reçois, mais à l'hôpital de Gap, elle a dû être depuis 4 ans, 80 fois à peu près aux urgences. Et les médecins ne l'écoutent pas.
Alors,
malgré le protocole.
Pascal, pardon, hein, mais on a bien entendu ce que vous nous racontiez de votre fille. On va évidemment en parler avec nos invités. Pardon, parce que vous êtes très nombreux, j'allais dire très nombreuses d'ailleurs au standard. Ce qui est très étonnant avec le récit de Pascal et d'autres qui viendront, c'est qu'on a l'impression, Éric Petit, qu'il y a autant de formes d'endométriose qu'il peut y avoir de femmes. Est-ce qu'on en est à ce point-là?
Bien sûr, énormément. Oui. C'est ce qu'on a l'habitude de dire, c'est-à-dire qu'il y a autant d'endométriose que de femmes, et il y a différentes formes, différentes mode de présentation, différents moments de survenue de la douleur, alors que la maladie commence dès l'adolescence, dès les premières règles. Ça peut être très déconcertant, effectivement, et puis la première consultation peut passer par n'importe quel spécialiste en dehors de la gynécologie, parce que les troubles peuvent être urinaires, digestifs, effectivement, des douleurs erratiques, y compris articulaires. C'est vrai que c'est une pathologie complexe.
Mais quand on finit par faire un IRM, on voit quoi?
Alors,
IRM, on voit,
on voit. Le problème, c'est qu'il faut un degré d'expertise très important, parce qu'en fait, on voit toujours. Hein. Mais il faut positiver des signes qui sont parfois subtils. Donc, il faut avoir une grande habitude de l'interprétation de l'IRM, qui est évidemment l'examen clé chez les jeunes filles vierges. Ça, il n'y a pas d'autre solution. Et puis sinon, un peu plus tard, quand la femme a eu des rapports sexuels, l'examen idéal, c'est quand même l'échographie endovaginale. Mais il faut que ça soit réalisé par un radiologue expert, ou un praticien expert, en tout cas, de cette technique, mais aussi connaissant parfaitement bien l'endométriose. C'est pour ça qu'il faut, c'est toujours un niveau d'expertise important. Et à ce moment-là, on dépiste. Et ça évite de faire des célioscopies dites diagnostiques qui, normalement, n'ont plus cours. Ça a été écrit dans les recommandations en 2018. Ça, c'est la théorie, c'est l'idéal. Le problème, c'est qu'il faut former aussi tous nos collègues radiologues à une expertise de ces examens-là. Alors l'échographie, c'est compliqué, la courbe d'apprentissage est longue, l'IRM, on peut y arriver un peu plus facilement, et puis l'avantage de l'IRM, c'est que ça peut être relu. Et il y a des sites, d'ailleurs, comme tel que deuxièmeavis.fr, qui permettent pour des gens éloignés de centres experts,
de montrer l'IRM,
réseau,
tout simplement.
D'être interprété par des experts dans ce genre de contexte.
Valérie Desplanches, on a entendu que notre amie, la fille de notre ami Pascal a été opérée. Quand l'opération est-elle nécessaire?
Est-ce qu'on peut se substituer à la vie médicale? Mais effectivement, en tout cas, ce qu'on dit de plus en plus, c'est qu'il faut opérer de moins en moins.
Voilà, alors, c'est ça, il faut une désescalade chirurgicale.
Répondre, mais qu'est-ce qu'on enlève, pardon de dire les choses aussi, mais qu'est-ce qu'on enlève, en fait?
On enlève toutes les lésions inflammatoires créées par cette issue des règles dans le ventre et qui crée des hématomes, et en réaction, tous les organes colonisés, parce que c'est une colonisation des autres structures anatomiques autour de l'utérus, quel qu'il soit, et tous les organes peuvent être concernés, y compris de la sphère urologique et digestive, eh bien ça crée des lésions inflammatoires et qui agrègent les tissus en eux, donc ça crée, ça colle ça fait des adhérences, c'est-à-dire c'est de la colle, et donc c'est qui est source de douleur également, donc il faut décoller tout ça et enlever les lésions inflammatoires en totalité, et si la chirurgie doit être faite, et c'est après des discussions, réunions de concertation pluridisciplinaires, que l'on décide que dans certains cas, les plus sévères, les plus graves, les plus résistantes au traitement médical habituel, eh bien dans ces cas, effectivement, et éventuellement à cause aussi d'une hypofertilité, eh bien on est obligé d'opérer certaines encore, parce qu'elles arrivent très tard, à des degrés très sévères. Donc à ce moment-là, effectivement, il faut enlever tout, en une seule fois, par des chirurgiens hyper entraînés, qui travaillent ensemble, parce qu'il n'y a pas que la sphère gynécologique, il y a la sphère digestive, urologique, et donc une équipe complète.
Valérie Desplanches, est-ce qu'on... Je lisais, moi, en préparant cette émission, qu'on sous-évalue même le nombre de malades. Seriez-vous d'accord avec ça, vous qui voyez arriver les patientes? Est-ce que... Parce que les femmes aussi ignorent parfois ce qui leur arrive, et parce que, effectivement, comme le disait Éric Petit à l'instant, on a tellement intégré le fait que les règles faisaient mal que de toute façon on ne cherche pas à comprendre. Est-ce qu'on sous-évalue à votre avis?
Oui, on sous-évalue très clairement. Comme vous disiez aussi, la mère a toujours tort, mais c'est vrai qu'on transmet de mère en fille cette idée de non, mais c'est normal d'avoir mal pendant ses règles. Donc il y a aussi une auto-censure des femmes, je pense. Et puis il n'y a pas d'études, il n'y a pas assez de recherches. Donc en fait, on sous-estime parce que la réalité, on ne la connaît pas. Et on dit toujours, il doit y avoir 10 à 20%. Mais en réalité, comme il y a un sous-diagnostic aujourd'hui, on ne sait pas. Et donc, on a besoin vraiment d'études épidémiologiques, on a besoin d'observer et d'avoir des chiffres réels.
Et ne sait pas d'où ça vient non plus, et pourquoi. Est-ce que c'est une, pardon de le dire comme ça, est-ce que c'est une loterie, en fait, ou est-ce qu'il y a quelque chose à aller chercher ailleurs?
Il y a quelque chose à aller chercher, c'est certainement pas une loterie. Après, c'est vrai que la maladie a été découverte quand même en 1860, et donc c'est un peu cette frustration de se dire qu'on ne sait toujours pas comment elle arrive, cette maladie, et qu'on attend à découvrir.
Si, je vais pas faire ma féministe de base, Eric Petit, mais si vous aviez, vous, de l'endométriose, je pense qu'on aurait trouvé. Allez, retour au standard. Voici Amélie. Bonsoir Amélie.
Oui, bonsoir Fabienne.
On vous écoute.
Merci de prendre mon témoignage. Je suis un peu dépitée parce qu'en fait, j'en apprends plus par votre émission que par des gynécos.
Bah, profitez-en, allez-y.
Ouais, donc évidemment, j'ai une endométriose. Le seul traitement qu'on m'a toujours diagnostiqué depuis 20 ans, le seul traitement qu'on m'avait proposé, c'est une pilule contraceptive, que j'ai refusée pour différentes raisons, notamment, je suis fumeuse, donc c'est con, je suis homosexuelle, donc c'est con, et donc j'avais assez peu de solutions à la douleur. Et la question que je me posais, en fait, avant d'écouter le début de l'émission, c'est comment est-ce qu'on n'a pas autre chose à proposer aux femmes qu'une pilule contraceptive qui n'est pas ciblée sur cette pathologie-là et qui n'est pas recommandée, en l'occurrence particulièrement dans mon cas. Voilà, c'est ma question.
Merci beaucoup pour votre question, Amélie. Valérie Desplanches fait oui avec la tête, mais c'est l'avis médical effectivement qu'on va aller chercher. Comment ça se fait qu'on peut rien donner d'autre? Plein de témoignages disent la même chose. On propose la pilule et c'est tout.
Ben oui, c'est très imparfait parce que c'est une maladie qui est hormonodépendante, donc il faut mettre au repos le système hormonal qui déclenche ces pics de contraction aberrant de l'utérus de façon trop violente, trop ample et trop fréquente et qui crée ce reflux des règles par les trompes, entre autres mécanismes. Pour mettre au repos éviter ça, il faut absolument être sous hormones en continu. Enfin, c'est le seul traitement qu'on puisse proposer actuellement. Ça marche.
Ça fait vraiment tomber la douleur.
Oui, ça fonctionne bien. Oui, ça fonctionne bien parce que quand vous supprimez donc cette contraction utérine et les règles, eh bien, ça fonctionne bien. Alors, le problème, c'est qu'une fois sur deux, il y a des effets secondaires qui peuvent être suffisamment insupportables pour que la patiente, au bout d'un certain temps, en ait marre effectivement de subir des effets secondaires qui sont parfois très délétères, donc elles arrêtent. On essaye d'autres pilules. Parfois, il faut changer 8 fois pour trouver la bonne pilule ou traitement hormonal au sens large, indépendamment de la contraception. C'est le même principe. C'est-à-dire qu'on enchaîne des plaquettes de pilules et c'est le traitement hormonal, en fait, la définition du traitement de base. Donc, effectivement, on n'a rien d'autre. Alors, l'avenir de la recherche, c'est très important, c'est d'essayer de trouver un traitement qui soit découplé de ces hormones. Donc, pour que ça soit en plus, parce qu'actuellement, quand on est sous pilule en continu, on ne peut pas être enceinte en parallèle. C'est l'un ou l'autre. Donc, c'est très imparfait. C'est souvent mal toléré. Donc, effectivement, on comprend la frustration de beaucoup de patientes qui subissent en plus ces effets secondaires et qui ont du mal à trouver la bonne formule. Donc, un jour, on trouvera mieux, mais il faut pour cela subventionner la recherche. Ça fait partie du plan de la stratégie nationale. Encore faut-il chiffrer. Et parce que pour l'instant, la recherche est quand même sous-dimensionnée dans cette pathologie.
Parce que, Valérie Desplanches, il faut le dire, stratégie nationale de lutte contre l'endométriose, c'est une très bonne nouvelle. Ça va commencer effectivement avec des groupes de travail qui vont se mettre en place tout de suite. Mais pour l'instant, on n'a pas de budget, donc on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, effectivement. On a du mal à trouver un cadre, en fait, à comprendre quel est le cadre. Est-ce que vous en savez-vous un peu plus ou pas du tout?
En fait, le cadre, je pense que les groupes de travail ont déjà eu lieu. On a travaillé déjà au mois d'avril et au mois de mai de l'année dernière pour définir ces cadres et sincèrement la plupart vraiment des recommandations qui sont issues des groupes de travail sont intégrées dans le plan national. Après, ce qui manque aujourd'hui, on le sait, pour la recherche, c'est effectivement les moyens. Parce que ce qui est très bien et ça manquait, c'est que dans le plan, il est prévu de construire une stratégie de recherche. Aujourd'hui, on n'a que le traitement hormonal parce qu'en fait, on ne comprend pas cette maladie. Et tant qu'on ne comprend pas les causes et le mécanisme de la maladie, on ne peut pas trouver de traitement. Donc en fait, il faut, et pour ça, c'est de la recherche fondamentale. Ce sont des moyens importants. L'épidémiologie, c'est pareil. Ce sont des cohortes très importantes. Donc il faut des financements. Donc ce plan, oui, on est extrêmement heureux parce qu'enfin il se passe quelque chose. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est le financement, les moyens qu'on mettra derrière.
Et on parlait du manque de traitement, effectivement, parce que vous avez raison. Quand on ne sait pas d'où ça vient, comment trouver le remède, enfin c'est très compliqué.
Impossible.
Mais c'est pour ça que on lit beaucoup de choses qui tournent autour de l'acupuncture, de l'homéopathie, de l'ostéopathie, etc. On a l'impression que chacun, chaque femme pauvrette fait ce qu'elle peut pour trouver ce qui pourra lui convenir à un moment.
Il faut utiliser toutes ces techniques en parallèle, parce
que au-delà de ça, oui, c'est important. En fait, et ça apporte, enfin, dans la gestion de la douleur, parce qu'il y a effectivement le traitement de la maladie, puis il y a la gestion de la douleur. Toutes ces approches, y compris la nutrition, parce
très
que
important.
C'est une maladie inflammatoire, en fait, l'endométriose. On oublie, on parle souvent de maladie gynécologique et on a tendance à la restreindre au côté gynécologique. En réalité, c'est une maladie inflammatoire systémique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un niveau d'inflammation très important et tous les moyens qui peuvent réduire l'inflammation, comme la nutrition.
Donc la nutrition, par exemple, une nourriture équilibrée, il y a moins de douleur.
C'est l'optimisation nutritionnelle et ça passe par des régimes dits d'épargne digestive, donc anti-inflammatoires au sens large du terme, mais qui doivent être bien conduits. Donc c'est pour ça que dans les équipes que nous montons, il faut des micronutritionnistes qui connaissent le sujet en lien avec l'endométriose et qui permettent d'améliorer ça. Et donc toutes nos patientes, en tout cas moi je les oriente toujours en parallèle au reste du traitement à des micronutritionnistes et le résultat est toujours très satisfaisant. Ça les améliore considérablement parce que les troubles digestifs qui sont parfois très handicapants, parce qu'on oublie que, et parfois c'est même le seul symptôme révélateur d'une endométriose, faut pas le négliger, eh bien, sont totalement améliorés grâce à l'optimisation des nutritions. Ça fait partie des armes thérapeutiques. Donc c'est une maladie suffisamment complexe pour qu'on utilise beaucoup de choses. Il n'y a pas que les hormones,
Elle nous écoute vraiment, les femmes qui en souffrent aujourd'hui, 1 sur 10, je vais rappeler. Bonsoir Marie.
Bonsoir.
On vous écoute, Marie.
Oui, donc déjà, je voulais confirmer que le régime anti-inflammatoire est extrêmement efficace. Mm-hmm. Et je voulais dire aussi, personnellement, merci beaucoup au docteur Éric Petit parce que il m'a soutenue à un moment où j'étais en très grande errance diagnostique. Donc ça m'a, il m'a vraiment énormément aidée.
Ah, il est content et il vous salue,
merci.
Marie.
Merci.
Ouais, en
ça
fait,
justifie mon combat.
Ouais, ben, vous faites vraiment un combat très très important. Et en fait, moi, j'ai fait une préservation de vos sites qui a mal tourné pendant le confinement. C'était parce qu'il n'y avait pas de... en fait, on m'a conseillé de le faire parce que j'avais l'ovaire qui était qui commençait à être touché par l'endométriose. Et il n'y avait pas de d'anesthésie, enfin pour une anesthésie générale, alors que c'est pas recommandé de faire ça sous anesthésie locale quand on a l'endométriose. Donc à partir de là, je me suis retrouvée avec des douleurs atroces tous les jours et ça c'était depuis juin 2020. Mmh. Donc pas un jour sans douleur, avec des douleurs qui pendant un an ont été de 7 à 8 sur 10 tous les jours, donc absolument insupportable. Rien ne marchait, donc une errance diagnostique de 3 mois avant de découvrir qu'il existait des médecins de la douleur. Mmh. Et là, j'ai été aidée avec des médicaments très puissants, mais qui n'ont pas marché. Et donc, ça fait un an et demi que je suis comme ça, que je suis entourée d'une équipe soignante extrêmement, comment je trouve pas mes mots, extrêmement compétente. Mmh. Et pourtant, je tourne en rond, je n'arrive pas à marcher plus de 1500 à 2000 pas par jour, toujours pas. Je n'arrive pas à me faire à manger, c'est mon compagnon qui doit s'occuper des tâches ménagères, du repas. Je ne tiens pas assise ni debout. Et je suis épuisée, j'ai perdu mon travail. J'avais réussi à me reconvertir et j'ai perdu mon travail parce que je ne pouvais pas travailler plus de 2 heures par jour. Et je peux même pas. Enfin, on est hyper isolé avec cette maladie parce que quand c'est à ce point-là, je peux même pas recevoir mes amis parce que ils viennent 10 minutes et je suis trop fatiguée. Je peux pas leur téléphoner et je peux plus. Maintenant, je peux plus prendre la pilule parce que ça me donne des migraines qui étaient encore pires que, qui étaient encore plus handicapantes que l'endométriose, même si la douleur d'endométriose était plus forte. Et en fait, les douleurs que moi j'avais, c'était maintenant ça commence à aller mieux. Parce que j'ai découvert énormément de choses grâce à un compte que j'aime beaucoup sur Instagram qui s'appelle Le Journal de l'Endométriose. Et elle fait, Tiffaine, elle fait aussi un podcast qui s'appelle Parlons d'Endo et que je recommande vraiment à toutes les personnes qui ne connaissent pas très bien leur maladie parce qu'il faut absolument bien la connaître pour pouvoir se soigner. Et je recommande aussi ce que disait le docteur Éric Petit, de vraiment écouter les médecins quand ils vous disent que il faut aller voir les micronutritionnistes, il faut aller voir des ostéopathes, parce que sinon ça empire et moi c'est de pire en pire je sais pas comment je vais m'en sortir et rien que pour aller à mes rendez-vous médicaux je suis obligée de prendre des Uber parce que je peux pas y aller autrement et en plus, j'ai des crises pendant plusieurs semaines après chaque rendez-vous médical parce que j'ai pris un Uber. Et moi, j'ai la chance d'avoir l'ALD pour mon endométriose et la RQTH. Mais en fait, même ça, ça sert pas tellement. En fait, ça me fait des énormes économies par rapport à celles qui n'ont pas. Mais on a énormément de coûts supplémentaires avec les médecines douces. Et la RQTH, ça m'a pas servi au travail. Parce que...
Merci. Marie, pardon de vous interrompre. Ouais. Merci beaucoup pour ce témoignage. Vous vouliez intervenir.
Oui, c'est un témoignage qui est terrible. Ce que je voulais juste mentionner, la personne en a parlé un peu, c'est la nécessité pour les malades de comprendre leur maladie. Et il y a notamment quelque chose qui est un outil assez fantastique qui s'appelle l'ETP, qui est l'éducation thérapeutique des patients, qui est dispensé dans de plus en plus de centres et qui devrait encore s'étendre, oui. Et qui, à travers des modules, permet justement de former les patientes sur leur maladie, à mieux la comprendre, à comprendre les parcours de soins, à comprendre un peu l'éventail thérapeutique dont elles peuvent disposer. Et quand une malade comprend mieux, elle est actrice de sa maladie. Donc ça ne résout pas tout, mais c'est extrêmement important. On pourra revenir aussi sur les conséquences de l'ALD, parce que ça permet aussi de faire avancer ce sujet-là.
Alors oui, ben l'ALD, allons-y. L'affection longue durée, pour l'instant, ça a été niette,
mais enfin,
c'est pas fini. Ce combat n'est pas fini. Affection longue durée, ça veut dire rembourser à 100%. Ça veut dire pouvoir poser des congés maladie, par exemple. Ça aide.
C'est-à-dire que ça permet d'avoir les premiers jours de carence sont pris en compte, mais en fait, sur 3 ans, il n'y a que la première période de carence qui n'est pas payée, et les autres jours de carence sont payés ensuite. C'est important parce qu'aujourd'hui, les conséquences professionnelles et l'absentéisme est énorme dans cette maladie.
Ça veut dire reconnaître vraiment au plein sens du terme la maladie chronique, effectivement, parce qu'il y a des carrières, Marie en est la preuve, qui en sont détruites. Mais Eric Petit, moi, je retiens surtout du témoignage, enfin, je retiens au début du témoignage de Marie qu'il y a des infos qu'elle n'avait pas, en fait, et qui ont subitement. Est-ce que ça arrive souvent, ça, ou est-ce que pauvre
souvent,
Marie est un cas particulier où on touche à quelque chose qui décuple la douleur?
Oui, bien sûr. Bien sûr, toute agression d'ailleurs du pelvis dans ces cas-là, parce qu'elle est affectée de douleurs neuropathiques, avec un syndrome qu'on appelle d'hypersensibilisation, et ça peut tourner assez vite vers ça. Et c'est pour ça que, par exemple, certaines celluloscopies peuvent déclencher ça, aggrave la situation, et dès qu'il y a un cortège de douleurs neuropathiques diffuses, erratiques, très importantes, n'est pas seulement liées aux règles, là c'est là où il faut le moins intervenir, en tout cas pas chirurgicalement, parce que ça ne peut qu'aggraver la situation.
Est-ce que parfois ça s'arrête ?
Oui, bien sûr.
Mais ça s'arrête. Je veux dire, par exemple, on a vraiment des vrais symptômes d'endométriose pendant 10 ans, 15 ans.
C'est possible. Il peut y avoir une amélioration. Tout est visible. Souvent, à partir de la quarantaine, il y a une sorte d'amélioration. Parfois, il y a des femmes qui vont mieux après une ou deux grossesses. La maladie étant toujours présente, voire même parfois évolutive sur le plan anatomique, elles n'ont plus besoin pour autant de pilules en continu, de stopper les règles, et ça va mieux. Mais à ce moment-là, il faut une surveillance, simplement, par imagerie régulière pour vérifier qu'elle ne progresse pas trop, parce que parfois il y a des problèmes de kyste d'ovaire, ainsi de suite, donc faut veiller au grain, mais on peut voir tout dans tous les sens, effectivement.
Catherine d'abord, excusez-moi Sophie, promis vous arriverez derrière, mais Catherine commence à patienter depuis longtemps. Catherine, bonsoir, pardon.
Bonsoir, difficile de passer derrière le témoignage de Marie, cependant j'avais une question à poser sur l'hérédité. En effet, ma maman a eu 9 petits-enfants issus de 3 filles. Sur les 9 petits-enfants, 6 petites filles. Sur les 6 petites filles, 2 seulement ne sont pas...
Non, pas d'endométriose, ouais.
Voilà, d'endométriose diagnostiquée, parce qu'il y en a une pour laquelle le diagnostic, pour l'instant, est en suspens.
Okay.
Et donc voilà, effectivement, ma maman a eu 9 grossesses avec seulement 5 grossesses abouties. Est-ce que c'était... elle a eu des kystes, des choses comme ça. Une de mes sœurs aussi a eu beaucoup de kystes, bien sûr des règles extrêmement douloureuses, pour ce qui me concerne également. Est-ce qu'il y a une hérédité quelque part ?
Merci beaucoup pour votre question, Catherine. Question simple, effectivement, réponse simple, Eric Pic. Oui ou non ? On peut dire oui ?
Si, bien sûr.
C'est oui ?
C'est une maladie en partie génétiquement déterminée, bien entendu, et ça fait partie des facteurs de risque repérés. Il y en a 2 qui sont importants, c'est l'antécédent, la fratrie au premier degré, que ce soit la mère ou la sœur. Quand l'une a l'endométriose, il faut s'intéresser à l'autre sœur ou à la fille, parce que c'est très très souvent que la patiente en question, avec plus ou moins de symptômes d'ailleurs, est affectée. Moi, je suis plusieurs familles avec 3 sœurs, par exemple, et qui sont toutes atteintes à 2 degrés divers.
À des degrés divers, bien entendu, une forme légère, moyenne, plus sévère,
ainsi de suite, avec des conséquences diverses aussi sur le plan clinique, avec troubles de la fertilité ou pas. Donc c'est un facteur de risque important. L'autre facteur de risque, et ça, il faut toujours en tenir compte. Et je suis toujours frappé par le fait que dans une fratrie, il y a la mère et une sœur, et on ne s'intéresse à l'autre sœur que tardivement, parfois. parfois. Et pourtant, elle souffrait. Mais on n'y a pas de réflexe de recherche de l'endométriose chez l'ensemble de la fratrie. Et je pense qu'à titre individuel, même si effectivement, en termes de santé publique, on ne parle pas de dépistage, parce que ça aurait un coût énorme et on ne peut pas le justifier comme tel, c'est vrai. Mais à titre personnel, quand il y en a une qui l'a, surtout s'il y a d'autres, des symptômes chez la sœur, il faut s'y intéresser.
Mais est-ce qu'on peut aller demander un dépistage si on a deux grandes sœurs?
Oui, d'ailleurs les patientes le font spontanément, parce que quand on commence à savoir un peu ce qui se passe, donc elles consultent d'elles-mêmes, bien entendu. Et puis, jusqu'à présent, il est très très rare que je n'ai pas trouvé d'endométriose à partir de ce genre de démarche. Donc c'est important. Et l'autre facteur de risque, c'est d'être réglé tôt. Il y en a beaucoup qui sont maintenant réglés de plus en plus tôt. C'est une évolution d'ailleurs des patientes en milieu occidental. Donc là, à 9 ans, 10 ans, c'est un facteur de risque. C'est le deuxième qu'il faut prendre en compte.
Sophie, c'était promis, Sophie, pardon de vous avoir fait une fausse joie tout à l'heure, mais maintenant c'est à vous, profitez-en.
Non, oui, bonsoir. Je voulais apporter un témoignage parce qu'effectivement, moi, je m'interrogeais sur le temps qui passe parce que j'ai eu un long parcours de PMA qui a commencé en 1992. Bien fini en 2000 avec une fécondation in vitro, la seule qui a fonctionné. Dans ce temps de parcours, en fait, finalement, j'ai eu beaucoup de suivi où on a pensé que mon infertilité pouvait être psychologique, pourquoi pas. Jamais, pendant 7 ans, un médecin a pensé à l'endométriose. Et puis, l'âge avançant, j'ai eu la chance de rencontrer un médecin à l'hôpital des Diaconesses qui, lui, s'est posé la question au mois de juillet 99. En septembre 99, les choses se sont faites. J'ai été sous célioscopie, enfin, il y a eu une opération. Une stimulation, une fécondation a démarré derrière. J'espère apporter un peu d'espoir. 21 ans après, en janvier 2000, j'étais enceinte. Et finalement, au moment où l'endométriose, à ce moment-là, je vous parle d'un temps qui a 21 ans, on n'en parlait pas. Moi, personne ne m'a expliqué ce que c'était. J'ai suivi le mouvement c'était très bien, de manière positive. Ce qui m'interroge là, c'est ce temps long. On est en 2021. Votre émission, elle en parle, on en parle, on s'interroge. Pour autant, il y a 21 ans qui se sont passés. C'était cette question-là qui me taraude là, parce que pourquoi tout ce temps?
Valérie Desplanches, d'abord vous, parce que vous les voyez, toutes ces patientes, en fait, dans votre association, j'imagine que tout le monde a la même question. Pourquoi tout ce temps? Et surtout, peut-être que c'est une question qui revient d'ailleurs, regardez, et ça va sûrement revenir, mais comment on peut faire un vaccin en si peu de temps? Voilà, que ça fait combien de dizaines d'années qu'on ne sait pas soigner l'endométriose, etc. Est-ce que c'est là la question récurrente, en fait, l'interrogation récurrente?
C'est clair. Tant qu'on ne définit pas que c'est une priorité, en fait, on ne s'y intéresse pas. Et comme il s'agit d'une maladie de femme qui, en plus, n'était pas considérée comme une maladie, un trouble féminin, gynécologique, tabou, en fait, je pense que l'histoire, elle est quand même là.
Et la douleur n'est pas un sujet. Parce que la femme a été enfermée dans la normalité de la douleur.
La douleur n'est pas un sujet, les règles ne sont pas un sujet. Donc douleur, femme et règles, c'est dernier sur la pile. Notre auditrice nous parle de son parcours de PMA. Oui. Il y en a une tout à l'heure au détour de sa question qui disait qu'elle avait eu des enfants. Oui. La fertilité, et l'infertilité, l'endométriose.
C'est le premier facteur de risque.
Est-ce que c'est 8 sur 10? Enfin, pardon de le dire comme ça.
Non, c'est 30-40%. Enfin, c'est quand même la première cause d'hypofertilité.
C'est souvent là qu'elle est diagnostiquée, d'ailleurs.
Oui, c'est ça, parce que là, on considère à un moment donné, si la femme n'arrive pas à être enceinte, là, on commence à s'y intéresser un peu. Alors que ça fait très longtemps qu'elle a toutes les douleurs. Mais malgré tout encore, on voit un certain nombre de patientes chez qui ça n'a pas été recherché. Et on ne donne pas d'explication à cette hypofertilité. Parce qu'on n'a pas... Enfin, c'est pas intéressé. On n'a pas écouté les symptômes.
C'est une des actions, d'ailleurs, du plan national, effectivement, parce que ce que témoigne la personne, c'est ça, c'est de dans les centres de PMA, c'est de s'intéresser tout de suite à poser un diagnostic s'il s'agit d'endométriose.
Evelyne, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Evelyne.
Alors,
J'ai 55 ans, je ne suis plus
c'est pas grave,
handicapée. Je suis plus handicapée par les problèmes de ménopause, mais je les ai vécus toute ma vie. Depuis le début de mes règles, je me rappelle être rentrée du collège avec des douleurs atroces. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, ça partait d'un principe que c'était normal pour une femme de souffrir. Donc je ne m'étais jamais posé la question, j'ai toujours accepté cette douleur comme faisant partie intégrante de ma vie de femme. Alors j'ai deux questions, j'ai été opérée d'un fibrome vers 30 ans. J'avais des règles hémorragiques. La gynéco m'a dit, il faut vous dépêcher à avoir un enfant. J'ai jamais pu avoir d'enfant. J'étais sous luténil ou lutéran pendant 15-20 ans. Est-ce que luténil ou lutéran peut avoir des conséquences graves sur ma santé maintenant? Et dernière question, est-ce que l'endométriose peut induire une absence de plaisir, voire une, frigidité lors des rapports sexuels?
Merci beaucoup. Evelyne, il nous reste peu de temps, mais elles sont importantes, les questions. D'abord, alors, est-ce que sur les deux médicaments dont
elle
parle...
Oui, bien sûr, ça fait partie de la gamme des macro-progestatifs, et on sait maintenant qu'il y a un risque, qui n'est pas important, mais enfin que c'est un risque, d'avoir un méningiome, c'est une tumeur cérébrale bénigne. Voilà, donc effectivement, quand on a pris ce genre de traitement pendant plusieurs années, il vaut mieux, de principe, faire une IRM cérébrale pour éventuellement les dépister. Ça ne veut pas dire que c'est toujours grave.
Ça ne va pas faire peur quand même à notre amie auditrice.
Non, mais c'est bénin, et puis ça peut être de petite taille, mais vaut mieux le savoir, surtout s'il y a des symptômes, un type de maux de tête, par exemple. Bon, donc ça, c'est une première chose. Deuxième question, c'était...
Les relations sexuelles, est-ce qu'on peut être frigide? Est-ce que ça rend frigide? Est-ce que c'est très compliqué? Est-ce que c'est douloureux pendant les relations sexuelles?
Oui, c'est ça. Oui, bien sûr que ça peut être douloureux. Ça peut affecter toute la chaîne du désir, du plaisir, et puis effectivement, ça affecte la sexualité, bien sûr, dans un grand nombre de cas. Et ça, c'est à prendre en compte. Hein. C'est pour ça qu'il faut aussi dans les équipes des sexologues aussi qui s'intéressent à ça. Enfin, nous, on a monté dans notre structure une prise en charge en hôpital de jour pour prendre en compte cette dimension, parce qu'elle est très souvent occultée. Il y a même des femmes qui m'ont dit, mais moi, je pensais que les rapports devaient être douloureux dans certains cas. Bon, oui, donc ça, c'est incroyable. Hein, à quel point la douleur a été intégrée par la femme comme étant son état normal.
Le chemin qui reste à parcourir, c'est énorme, vraiment ce qu'on retient de ces 40 énorme. Minutes, mais tant mieux si on arrive à quelque chose de plus, vous viendrez nous le raconter avec grand plaisir dans cette nouvelle stratégie nationale. On n'a pas le temps de prendre Célia, mais je voudrais quand même lire le message qu'elle nous envoie et qui dit « Je suis médecin généraliste. On a découvert mon endométriose à 35 ans après un bilan d'infertilité. Il faut que les médecins que nous sommes soient mieux informés sur ce que sont les signes et comment les diagnostiquer. »
Absolument.
Parce qu'elle-même est médecin et si elle n'a pas pu diagnostiquer sa propre endométriose, ça donne là aussi le chemin à parcourir. Je vous remercie vraiment beaucoup à
tous.
Et merci pour vos très nombreux appels.